France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de l'élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains, on tâchera tout d'abord de détailler la liste décidément de plus en plus longue des candidats putatifs à droite pour la course à l'Élysée. On reviendra également sur les conclusions accablantes de la commission d'enquête sur la fraude aux eaux minérales du groupe Nestlé. Conclusion remise ce matin et qui tente à prouver la possible collusion de l'État français. Nous serons par ailleurs à Londres, 5 ans après le Brexit, pour le tout premier sommet entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Depuis Jérusalem, on verra comment le chef du gouvernement israélien entend atteindre ses objectifs de guerre dans la bande de Gaza. Enfin, dans un contexte de montée partout des droites radicales, nationalistes ou extrêmes, on reviendra avec notre invité sur la victoire surprise hier en Roumanie du candidat centriste et pro-européen à l'élection présidentielle. Donné largement favori de l'élection, Bruno Retailleau est donc devenu hier le nouveau patron des Républicains. Avec 3/4 des voix, le ministre de l'Intérieur a surclassé son adversaire Laurent Wauquiez. Un véritable plébiscite, de quoi donner tout d'abord une nouvelle dynamique à son parti, encore moribond il y a un an à peine, et de quoi aussi et surtout le renforcer à droite comme candidat potentiel à la présidentielle de 2027. Sauf qu'à cet emplacement précis de l'échiquier politique, les places semblent désormais de plus en plus chères. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
En l'occurrence, Édouard Philippe s'est lui d'ores et déjà lancé dans la course à l'Élysée. Le patron de Horizon tenait d'ailleurs un nouveau meeting de campagne samedi dernier à Marseille. Et puis sur la longue liste des potentiels prétendants pour récupérer les clés du palais, comment ne pas citer encore le garde des Sceaux Gérald Darmanin.
Oui, Gérald Darmanin qui a également tenu à faire parler de lui ce week-end. Il était en Guyane et il annonçait hier dans une interview au journal du dimanche son intention de faire construire d'ici 2028 une prison de haute sécurité de 600 places à Saint-Laurent-du-Maroni. Prison où l'on enfermerait notamment les narcotrafiquants les plus dangereux qui pourraient ainsi être éloignés de la métropole. Cette annonce a donné lieu à plusieurs reportages hier et aujourd'hui en presse écrite et à la télévision dans lesquels s'exprimait l'actuel garde des Sceaux.
Nous devons réagir en hexagone, ce que nous avons fait avec des prisons de haute sécurité, que j'ouvre la première à Vendin-le-Vieil le 31 juillet prochain. Et nous devons le faire en Outre-mer, parce qu'il y a des trafics de drogue extrêmement importants. Si nous ne répondions pas à cette attaque du narcotrafic qui les touche, et qui les touche bien plus qu'hier.
Faire parler de lui, c'était aussi vraisemblablement l'intention d'Édouard Philippe, qui s'est, comme Gérald Darmanin, invité dans les comptes rendus télévisés de l'actualité politique du week-end. L'ancien Premier ministre, vous l'avez dit, tenait une réunion publique à Marseille, où il a délivré un discours très ferme sur les questions sécuritaires.
Notre pays est devenu violent, l'un des plus violents d'Europe. Chaque jour, nous déplorons en moyenne 3 meurtres ou assassinats, 600 cambriolages, plus de 700 vols dans les véhicules et plus d'un millier d'escroqueries. Quand les Français et les Françaises voient cela, ils se disent que notre société subit une forme d'ensauvagement, et ils ont malheureusement raison.
L'ensauvagement de la société française, c'est un constat régulièrement mis en avant par le Rassemblement national, également brandi de longue date par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. La dénonciation du chaos et le rétablissement de l'ordre et de la sécurité sont des thématiques régulièrement labourées par les candidats qui cherchent à s'attirer les faveurs de l'électorat de droite. En s'en emparant ce week-end, Édouard Philippe et Gérald Darmanin n'ont pas souhaité laisser celui qui a été élu président du parti Les Républicains hier soir occuper tout seul tout l'espace médiatique, comme si, à 2 ans de l'échéance, la compétition entre eux avait déjà commencé.
Merci Stéphane Robert. Sortie indemne d'un parcours législatif pourtant très chaotique, la proposition de loi de Gabriel Attal pour durcir la justice des mineurs s'apprête à connaître son épilogue avec un ultime vote du Sénat aujourd'hui. Toujours au Sénat doit débuter cet après-midi l'examen d'un projet de loi gouvernemental pour refonder l'archipel meurtri de Mayotte en proie à une crise aussi durable que multidimensionnelle. Et ce, plus de 5 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. A priori, le texte devrait être adopté confortablement par la Chambre haute, malgré encore quelques désaccords, notamment sur son volet migratoire. Enfin, à l'Assemblée, cette fois-ci, les débats se poursuivent sur la fin de vie dans un hémicycle provisoirement apaisé. 2 textes sont actuellement examinés. L'un concerne, vous le savez, les soins palliatifs et l'autre vise à ouvrir la possibilité d'une aide à mourir à de strictes conditions d'éligibilité. Le vote solennel est prévu le 27 mai.
Au cœur des ténèbres, Sèvres.
À Vannes, le procès de Joël Le Squarnec, cet ex-chirurgien poursuivi pour près de 300 viols et agressions sexuelles commis essentiellement sur de jeunes patients, touche à sa fin. Aujourd'hui a lieu la toute dernière journée d'audition des témoins et c'est aussi le jour qu'ont choisi plusieurs victimes pour s'exprimer, certaines d'ailleurs pour la première fois devant le palais de justice, l'occasion notamment, Florence Thiombe, de manifester leur déception sur le manque de mobilisation à leurs yeux de la société comme du monde politique près de 3 mois déjà après l'ouverture de ce procès.
Médecins, agresseurs, violeurs, ordre des médecins complices, une banderole devant le palais de justice de Vannes, sur les marches en contrebas, une trousse, une poupée, un petit seau de plage rouge éparpillé sur un drap blanc. Et ce sont les parents des enfants victimes de Joël Le Squarnec qui prennent le micro en premier. Des parents souvent rongés par la culpabilité d'avoir laissé leur enfant à un prédateur. Au total, 110 victimes sont venues déposer à la barre. Parmi elles, Gabrielle Trouvé attend bien plus qu'un verdict de ce procès.
Ce procès est un laboratoire à ciel ouvert de l'ensemble des défaillances systémiques. Il peut profiter dans cette vision et cette compréhension de ces défaillances systémiques pour créer en fait un vrai dispositif d'accompagnement, un vrai système de prévention. Il y a énormément de choses à faire et on est ouvert au dialogue et à participer à tout travail qui pourrait mener à des réponses concrètes.
Ce collectif réclame une commission interministérielle, des dispositifs clairs pour mieux protéger les enfants, l'obligation légale pour les médecins de signaler toute suspicion de violence sexuelle sur des mineurs et l'interdiction pour toute personne condamnée d'exercer une profession de santé. Mais après des semaines de procès, beaucoup, comme Manon Lemoine, déplorent de n'avoir entendu aucune parole politique, contrairement par exemple au retentissement de l'affaire Bétaram.
On est là, on a de la peine, on est fatigué de ce procès, on est fatigué de devoir en faire entendre notre voix, on est fatigué d'organiser un tel événement aujourd'hui pour se faire entendre, parce qu'on ne nous écoute pas. C'est pas à nous de le faire normalement. On est en train de vivre un moment important de notre vie, on devrait pouvoir s'y consacrer à 100% et finalement on est obligé de mettre de l'énergie ailleurs.
Tout à l'heure, les victimes présentes ont resserré les rangs, posé les mains sur leurs yeux, leurs oreilles et leurs bouches pour dire stop à la loi du silence.
C'est un enjeu économique et commercial majeur.
Les pratiques industrielles dans les eaux en bouteille sont au cœur d'un rapport sénatorial publié aujourd'hui, plus d'un an après la révélation d'une affaire de traitement illicite utilisée pour certaines eaux minérales, affaire qui a fait l'objet d'une dissimulation par l'État relevant d'une stratégie délibérée, c'est ce qui ressort des conclusions de la commission d'enquête. En clair, cette fraude massive de la part de Nestlé aurait été permise grâce à la complicité des autorités de l'État dans ce dossier. Je vous propose d'écouter Alexandre Wizil, sénateur socialiste, rapporteur de la commission d'enquête, invité ce matin de nos confrères de France Info.
Les choses, elles sont extrêmement claires. L'État s'est complètement fourvoyé dans cette affaire. Il a eu une attitude transactionnelle avec l'industriel au lieu d'être l'autorité qui édicte la norme et qui garantit l'intérêt général. Imaginez un rapport coécrit entre l'industriel et dans un triangle avec le cabinet santé, l'ARS Occitanie et le préfet. Ça ne devrait jamais exister. Et puis, le fait que depuis 2021, le ministère de l'Industrie est au courant de la tromperie. Il ne la révèle pas au public. Depuis 2022, l'Élysée est au courant. Les autorités européennes devraient être mises au courant. Elles ne le sont pas. Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales, qui est mandaté à la suite des révélations de 2021, qui oublie dans l'inspection le fait d'inspecter le site de Perrier. Je pense que l'État est tombé dans le chantage que lui faisait l'industriel sur les questions d'emploi très tôt, qui n'a d'ailleurs pas objectivé la situation économique parce qu'il y a des profits très considérables qui sont faits par Nestlé Water sur ces différents sites. Et donc, il a eu peur, c'est écrit noir sur blanc sur des mails, qu'on lui colle certaines destructions d'emplois sur le dos.
Le sénateur socialiste de l'Oise, Alexandre Wizil, rapporteur de la commission d'enquête.
Midi passé de 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
En Israël, le gouvernement de Benjamin Netanyahu continue à souffler le chaud et le froid, en l'occurrence le chaud de la poudre à canon et le froid de sa stratégie jusqu'au boutiste. Ce matin, en plein regain d'offensive militaire sur l'enclave palestinienne, le Premier ministre a déclaré que son pays allait prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza. Et puis après l'annonce d'une reprise limitée de l'aide humanitaire bloquée depuis plus de 2 mois. Non seulement l'armée israélienne a aussitôt repris sa campagne massive de bombardement, encore 22 personnes tuées ce matin, mais surtout Benjamin Netanyahou a tenu à préciser que si Israël devait empêcher une famine à Gaza, c'était d'abord pour des raisons diplomatiques. Autant dire que même avec ce soudain accès contraint de générosité, l'enfer promis aux civils enfermés à Gaza n'est pas prêt de se terminer. Les précisions depuis Jérusalem de Thibault Lefebvre.
Benjamin Netanyahou est passé en force. Hier soir, ses alliés d'extrême droite favorables au blocus total de Gaza ont crié au scandale après avoir été empêchés de voter. Le Premier ministre a évoqué une décision de l'armée pour autoriser sans consultation l'acheminement de l'aide humanitaire. On parle dans la presse israélienne de 30 camions par jour. Mais c'est évidemment une goutte d'eau pour faire face au désarroi d'une population à bout, comme Mohamed, encore une fois jeté sur la route par les bombardements incessants.
On a pris la route avec ma femme, nos enfants, mes sœurs, leurs maris et mes neveux. On a marché 17 ou 20 kilomètres. Ce que je ressens va au-delà de l'épuisement et de l'impuissance. Ils veulent simplement notre anéantissement. Et tous ces pays à l'étranger, hypocrites et complices qui ne veulent rien faire pour stopper ça et pour protéger les civils innocents.
Cette réponse humanitaire est donc dérisoire et c'est surtout un message à destination des Américains et des Européens qui ont mis la pression sur Israël pour répondre à l'urgence.
5 ans après le Brexit, le Royaume-Uni accueille depuis ce matin à Londres un sommet inédit.
Sommet destiné à poser les fondations d'une relation plus étroite avec l'Union européenne. Alors le contexte international y est évidemment pour beaucoup, qu'il s'agisse de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, comme du risque d'un désengagement américain du continent européen. Reste que si l'atmosphère s'est en effet sérieusement réchauffée entre Londres et Bruxelles, les pourparlers ne sont pas des plus aisés. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Thomas.
Envoyé spécial à Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer a d'ores et déjà dicté ses lignes rouges. Pas question de revenir dans le marché commun, ni dans l'union douanière. Pas question non plus de rétablir la libre circulation. Son gouvernement souhaite malgré tout un rapprochement économique pour limiter les effets négatifs du Brexit. Et puis surtout, Frédéric, les deux parties espèrent la signature d'un pacte de sécurité et de défense.
Oui, Ursula von der Leyen, qui est en pleine discussion en ce moment ici au palais de Lancaster House. L'ode à la joie retentit pour accueillir la présidente de la Commission il y a une petite heure. Et c'est vrai qu'avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, c'est effectivement un rapprochement, disons, compliqué qui est en train de s'opérer. Compliqué d'abord sur la défense. Certes, face aux menaces géopolitiques, l'Europe ne peut pas ignorer le Royaume-Uni, qui est une puissance nucléaire, l'une des premières armées du continent. Un pacte va donc être signé dans les minutes qui viennent pour améliorer les coopérations. Mais pour autant, Londres doit-elle bénéficier des milliards d'euros débloqués par l'Union européenne pour développer l'industrie de défense? Plusieurs pays, dont la France, sont farouchement contre. Alors, d'après nos informations, le texte laisse la porte ouverte à des négociations futures. Rapprochement aussi économique. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni s'agace des contrôles stricts imposés à ses produits alimentaires par l'Europe, ce qui ralentit bien sûr les exportations. Eh bien, l'accord signé aujourd'hui va réduire les contrôles et aligner les normes. En contrepartie, Londres lâche du lest sur un autre dossier sensible, celui du partage des zones de pêche. Les Britanniques acceptent un accord pour les 12 prochaines années à la grande satisfaction de Paris. Et puis il y a le sujet trop sensible politiquement, renvoyé à plus tard, en particulier la circulation des étudiants. Les Européens voulaient rétablir une forme d'Erasmus avec le Royaume-Uni. C'est non, Keir Starmer inflexible. Le Premier ministre est sous la pression de l'opposition conservatrice. Elle l'accuse de vouloir réintégrer discrètement l'Union européenne. Voilà pourquoi aucune des deux parties ne veut aller trop loin, trop vite dans ce rapprochement post-Brexit.
Merci Frédéric Saïs en direct de Londres. Après des pourparlers infructueux entre Kiev et Moscou, Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir aujourd'hui au téléphone avec l'objectif de mettre fin au bain de sang en Ukraine, selon les propres mots du président américain. Déjà hier à Rome, le vice-président J.D. Vance s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour préparer cet appel. Cette rencontre était d'ailleurs la première entre les deux hommes depuis leur altercation filmé dans le bureau ovale, c'était fin février. Puis les dirigeants français, britanniques, allemands et italiens se sont eux aussi entretenus hier par téléphone avec le président américain. Rappelons que le Kremlin a toujours maintenu jusqu'à présent des revendications maximalistes que l'Ukraine rejette fermement. Maintenir le cap européen et notamment son soutien à Kiev ou bien se tourner vers l'extrême droite en même temps que la Russie. Ce sont deux visions du monde radicalement différentes qui s'affrontaient hier en Roumanie et finalement, grâce à une forte mobilisation dans les bureaux de vote, les électeurs ont réussi à déjouer tous les pronostics les plus pessimistes en donnant à la première option une victoire éclatante avec plus de 54% des voix. Et pourtant, le discret maire centriste de Bucarest, Nicu Ciordan, devenu à 55 ans le nouveau chef d'État, faisait faisait face à une équation complexe depuis le premier tour. Comment allait-il bien pouvoir rattraper un retard de 20 points sur son adversaire, Jorge Simeón, un nationaliste fervent admirateur de Donald Trump? Alors pour essayer de comprendre ce qui a permis un tel sursaut démocratique, invité de la rédaction aujourd'hui, Sylvia Martin, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Bucarest. Bonjour madame.
Bonjour.
Je le disais, ils étaient sans doute assez peu nombreux, ceux qui, il y a encore deux semaines à peine, auraient parié sur le vainqueur de l'élection présidentielle. Comment Nikos Jordan a-t-il réussi à inverser la donne et s'imposer en homme providentiel? Peut-être faut-il d'abord souligner la forte mobilisation donc des abstentionnistes et plus de la jeunesse.
En effet, ce second tour a vu une mobilisation exemplaire des électeurs roumains du pays et de la diaspora. On a battu certains records pour la diaspora, en tout cas, jamais autant d'électeurs roumains de la diaspora n'ont voté, 1,6 million. Et ensuite, une autre surprise et record pour ce second tour, c'est en effet la mobilisation des indécis, c'est-à-dire, mais notamment ceux qui n'ont pas voté au premier tour. Et cette mobilisation des indécis s'est reportée sur le candidat Dan, donc le maire de Bucarest, qui a vu donc son pourcentage augmenter grâce à cette mobilisation des indécis qui n'avaient pas de choix, qui n'avaient pas fait leur choix pour le premier tour et qui ont senti que voilà, ce second tour est vraiment entre deux options radicalement différentes de l'avenir proche et à long terme de la Roumanie, c'est-à-dire Nikos Jordan, le maire de Bucarest, résolument pro-européen pour garder la Roumanie dans le cadre des alliances, des coopérations au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Et l'autre candidat, Jorge Simeón, ultranationaliste, extrémiste de droite, ambigu sur ses positions géopolitiques, assez ouvert vers la Russie plutôt. Il n'a jamais condamné explicitement la Russie. Et donc, c'était un choix finalement pour la position de la Roumanie dans les années à venir sur la scène européenne et internationale. Et alors, les électeurs ont senti cela.
Il se trouve que Nikos Jordan donc est un brillant mathématicien, père de famille. Ses détracteurs lui reprochent souvent son manque d'aplomb, raillant ses propos, hésitant. Lui-même reconnaît d'ailleurs ne pas être un grand communicateur. Il est davantage dans un registre, disons, de bon gestionnaire. C'est un profil, au fond, assez atypique aujourd'hui face aux grands leaders populistes charismatiques.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, le maire de Bucarest, Nikos Jordan, en fait, d'une manière assez intelligente, il a joué sur son caractère atypique. Il a fait un calcul bien vu. Il est atypique comme présence média, il est atypique comme homme politique, même s'il a une expérience comme élu local, maire de Bucarest à son second mandat, et ensuite il a une expérience dans le mouvement associatif autour du patrimoine de Bucarest, donc il est dans l'espace public, mais il a toujours été d'un style différent par rapport à la classe politique traditionnelle des partis dominants qui, en fait, si ce second tour a été tellement important, et si tant d'électeurs se sont mobilisés, c'est qu'ils ont eu à choisir entre deux candidats le candidat atypique, le maire de Bucarest, Nikos Jordan, et le candidat anti-système provocateur, mais tous les deux candidats, en fait, sont présentés comme étant contre la classe politique traditionnelle incarnée par les partis, le Parti social et le Parti libéral. Et donc, Nikos Jordan a capitalisé sur son style. C'est son style, c'est lui-même son style atypique. Alors que Simeón, oui, il a joué dans la provocation, il a alimenté les colères, la méfiance, qui est déjà largement répandue dans la société roumaine, mais Simeón n'a fait que renforcer cela, les angoisses, mais en se présentant en bon populiste d'extrême droite, en se présentant comme le vrai sauveur et en présentant aux citoyens des solutions rapides et simples à des problèmes extrêmement complexes.
Simeón a fini, je me permets de vous couper, Simeón a fini par féliciter son adversaire ce matin après avoir refusé un temps de concéder sa défaite. Pour autant, on imagine que les divisions sont encore profondes. Est-ce qu'avec ce sursaut des défenseurs de la démocratie, la Roumanie peut espérer refermer définitivement le chapitre tumultueux des derniers mois?
Il y a une air de printemps, une fraîcheur dans l'espace public roumain, ce qui est bien. Et ce début de changement profite maximum au président nouvellement élu. C'est à lui, sur ses épaules, que réside donc la grande responsabilité de traduire en politique publique de par sa position et ensuite dans ses rapports avec le gouvernement et la majorité parlementaire, ce changement vers un autre style, vers une autre manière de faire la politique et de répondre aux attentes et aux angoisses des citoyens. Par contre, le mouvement de Simeone et les électeurs qui ont soutenu Simeone quand même, c'est un chiffre important de la population, soutient Simeone et son parti AUR, l'Alliance pour la Roumanie Unie. Donc c'est un parti parlementaire. Aujourd'hui, il est dans le Parlement, ce parti là, c'est le deuxième parti comme position dans le Parlement roumain. Et à mon avis, donc ces électeurs et ensuite ce mouvement AUR ultranationaliste d'extrême droite, il est là pour durer. Il est là pour durer dans les années à venir, pour les échéances électorales prochaines. Et en fait, le gouvernement et la coalition en place maintenant, avec le nouveau chef de l'État, c'est toute leur responsabilité de s'adresser, de faire les ponts vers cet électorat aussi, de réparer les fractures qui existent dans la société roumaine, qui sont de nombreuses de nature économique et sociale, mais également géopolitique. Et donc, AUR, c'est un mouvement d'opinion, de citoyens qui est là pour durer.
C'est bien noté. Merci Sylvia Marton, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Bucarest, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aline Biette pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec des orages sur un grand quart sud-ouest, du soleil partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.